Bien, on est dans la Mishnah. Zayin 7. Donc, c'est l'autre, la Chavruta de Yeshua ben Prachia. C'est Nitaï Arbeli Omer. Achek Mishachenra. Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Bon. Ve'al titraber le racha. Et ne te lie pas au mécréant, au méchant. Ve'al titiaesh minapuranut. Et ne désespère pas de la punition. Alors ça, c'est très, 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 très bizarre. Voyons ce que dit Rashi. Rashi te dit, il dit rien sur Achek Mishachedra, Ve'al, il ne parle pas, il ne parle que de Ve'al Titcha'ish Minapuranut. Alors il dit, Al Tifta, il dit, n'aie pas peur. Non, on reprend tout, excusez-moi, on reprend tout. Je j'ai pas vu que Rashi ne parlait pas, on reprend tout. 52, je vais lui dire. On reprend tout. À 52. On y va. Alors, Mishnah 7. La Mishnah est écrit comme ça. Donc c'est la Chavruta de Yeshua ben Prachia, c'est le deuxième Tana. Il dit Nitaï Arbali Omer, Arbeli Omer, Achek bi Mishachenra. Éloigne-toi du mauvais rachat, du mauvais voisin. Al titraber la rachat. Ne te lie pas aux méchants. Ve al titiaesh minapuranut et ne désespère pas de la punition. C'est bizarre. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Ici, le Maharal explique. D'abord que, là encore, on a trois dimensions. Le voisin, le chibour, le lien possible avec un mécréant, et encore une fois, le clan, le général. Ça veut dire la population. Bon. Et en réalité, ça fait écho à ce que dit Sarah Bruta, Yeshua ben Prachia, parce que lui, il avait dit le Rav, l'ami, et on a vu les disciples, mais les disciples vus comme tout un chacun à qui je dois enseigner quelque chose. Donc, par rapport au Rav, par rapport à fais-toi un Rav, en face, il y a éloigne-toi du mauvais voisin. Quel rapport entre le voisin et le Rav? Le Maharal explique dans un truc lumineux, comme il a d'habitude, en disant, le Rav, c'est la hauteur. Le Rav, c'est une référence. Et il dit en vérité, le voisin, c'est-à-dire celui avec qui je ne suis pas vraiment proche, mais qui habite avec moi. Celui avec qui j'ai pas une vraie relation, mais qui est quand même tous les jours que je côtoie. Il dit, l'influence d'un côtoiement quotidien ressemble à l'influence d'un rave. Pourquoi? Parce qu'un rave, même si on le voit pas beaucoup, même si on n'a pas une relation émotionnelle très forte avec lui, il est toujours, il a valeur de symbole. Quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, des fois on peut, une vie entière peut être orientée par un rav à partir d'un regard, de deux ou trois paroles, d'un petit geste ou d'un petit acte ou d'une histoire que j'ai eu avec ce rav. Il va illuminer toute mon existence. Parce que ça va être ce qu'on appelle l'importance que je vais donner au référent, à cette référence. À ce rav étant pour moi l'écho de la Torah sur terre, il a une influence énorme dans mon existence. Un voisin qui n'a aucun rapport avec un rab, même si je ne m'en rends pas compte, le fait que c'est mon paysage autour de moi, c'est les gens que je côtoie, peu à peu, ça va inscrire dans ma conscience une référence qui va avoir une importance énorme, qui va m'influencer énormément. En d'autres termes, de la même façon que la parole d'un rab est beaucoup plus puissante que le temps ou le rapport émotif réel que j'ai avec le rab. C'est dans son rapport symbolique où la puissance est très très forte. Eh ben, le voisin a une puissance symbolique qui n'est pas similaire à celle du rab, bien entendu, mais qui fait partie du même registre. Ça veut dire la puissance du symbolique. Alors, quand vous avez, ici, aujourd'hui, les mauvais voisins à nous, comme aujourd'hui, de toute façon, on vit dans une société où il n'y a plus de voisins. On ne vit plus avec les gens même sans leur parler, où chacun est enfermé dans son appartement, dans sa villa. Aujourd'hui, le voisinage, c'est Facebook, c'est Internet, c'est tous ces trucs, c'est ce qu'on appelle les forums, mais sociaux, qui sont notre voisinage, notre symbole. Et donc, on te dit, éloigne-toi du mauvais voisin. Ça veut dire que, sans s'en rendre compte, et ça, c'est très, très important, parce qu'on rentre ici dans un dilemme, on n'a pas trop, pas tellement ici d'endroit d'en parler, mais il faut quand même en parler. C'est que, d'un côté, le monde de la Torah, le monde haridi, qu'on appelle, le monde orthodoxe, veut se couper de ces influences négatives qu'a produit la modernité. Par exemple, la télévision a été, Baruch HaShem, proscrit. Proscrit, bouté hors du royaume de la Torah. Pas de télévision dans les maisons religieuses, religieuses orthodoxes. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que la télévision, outre le flot de ânerie et le flot d'ineptie et la bassesse intellectuelle et spirituelle qu'elle véhicule, elle véhicule aussi des images esthétiques, des références qui détruisent les références de la Torah. C'est le mauvais voisin. Et Baruch HaShem, le monde Haridi, a gagné la guerre de la télévision. Il n'y a aucune maison religieuse authentique, enfin en tous les cas authentique, de orthodoxe, qui possède une télévision. Ça n'existe pas. Par contre, Internet, la guerre d'Internet n'a pas été gagnée. Dans la mesure où il y a énormément de gens qui ont Internet, même s'ils sont très très religieux et très orthodoxes. Et ça, c'est une catastrophe. D'un côté, parce que, pourtant je parle maintenant d'Internet, mais ça reste quand même une catastrophe. Pas tellement parce que les gens dans Internet vont regarder des horreurs ou des choses d'une impureté sans nom, non. Ça, bien sûr que c'est terrible, mais on va dire que ça, la plupart des gens, faut quand même attention de ne pas tomber dans ce genre de piège tellement bas, tellement nul. Non. C'est le fait qu'ils sont envahis par tout un système de référence dont la puissance symbolique est tellement forte qu'ils deviennent sans s'en rendre compte, qu'ils aient structuré dans leur tête sans s'en rendre compte une pensée de goy, où la pensée de la Torah est détruite. Alors vous allez me dire, c'est ça le problème. C'est qu'en se coupant, à la force de se couper à dire non à la télévision, à dire non à Internet, à dire non à la modernité, est-ce qu'on va pas devenir des gens qui vivent dans une bulle hors du monde? Est-ce qu'on va pas être des gens qui vont être coupés complètement préhistoriques, moyenâgeux, etc., etc. Alors, non, pas du tout. À cause de cette forme symbolique. Parce qu'on peut très rapidement, ce qu'il y a de bien dans Internet, ou en tout cas, ce qu'il y a de bien dans la culture, ce qu'il y a, les Shahen Tov, ça existe, on peut l'apprendre aussi par sa force symbolique très très rapidement. Dans les toilettes, on peut lire des livres de Chol en... Si on, tous les jours dans Chol, on lit quelques livres de Chol sur la science, sur l'histoire, sur la philosophie, sur la psychanalyse, sur la psychologie, si on passe, je ne sais pas combien de temps, par jour dans les toilettes, mais si on fait le calcul, très rapidement, on peut intégrer les bases de la culture universelle de façon tout à fait pertinente, et ça suffit largement. Et c'est suffisamment maîtrisé pour que ça ne devienne pas un mauvais voisin qui colonise ma conscience pour faire que j'oublie la sainteté de la Torah. Donc la problématique du mauvais voisin, elle est énorme, énorme. Et ce qu'il dit, justement, c'est pour ça qu'il dit « éloigne-toi ». Il ne dit pas de le tuer complètement. Il y a des choses qu'on peut apprendre des voisins. Il y a dans les Sha'ar Chochmot, on peut apprendre dans les sciences profanes des choses très bien. Mais et ce mouvement de l'éloignement, ça n'adhère pas. Fais attention, tout système de connaissance, toute intelligence, toute pratique du savoir possède en elle aussi le secret d'une aliénation, d'un esclavage. Possède aussi le secret en elle de quelque chose qui veut le détruire. Donc on dit, et un rapport d'éloignement, soit libre. Par rapport à ce savoir profane qui est diffus dans le monde, et un rapport de maîtrise, d'éloignement, de fais attention, de méfiance ouverte. On ne dit pas détruit, on dit éloigne-toi, éloigne-toi. Mais si tu peux prendre de loin des choses, prends. Mais en maîtrise, sans jamais que ça permet de coloniser ta conscience au point où tu es, où Chas v'Shalom, c'est l'envers de la parole du Rav, qui normalement la parole du Rav doit incendier, illuminer, donner la grandeur de ton existence. Le mauvais voisin, c'est des paroles qui sont en train de plomber ton existence. Éloigne-toi des mauvais voisins. Et après, il te dit, l'olitraber et maracha. Alors, l'olitraber et maracha, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'ici, on te dit, si tu t'éloignes déjà du mauvais voisin, à plus forte raison que tu vas pas te lier, non. Parce que se lier, tu peux dire, moi, je ne veux pas apprendre de ce rachat, mais je veux avoir un lien avec lui dans le business, par exemple. Je dois faire des affaires, ben lui, c'est la meilleure personne pour les affaires, je me lie. Or là, je me lie avec lui pour monter une affaire. Vient le texte et te dit, le rachat, si c'est un rachat, si c'est un mécréant, si c'est quelqu'un qui est dans le monde du négatif, qu'est-ce que c'est un rachat? Un tzaddik, c'est celui qui il peut faire des fautes, il peut faire des avérotes. Un rachat peut faire des mitzvot. Mais ça va être une question, quelle est la force motrice de son existence? Un tzaddik, c'est celui dont la force motrice de son existence, c'est la Torah, la vérité, le bien. Un rachat, alors même si le tzaddik sa force motrice de son existence, c'est le bien, ça peut arriver qu'il tombe. Ça peut arriver qu'il fasse des actes pas bons, mais ça reste un tzaddik. Parce que la force motrice de son existence, ce qu'allume en lui, son désir, ce qui fait qu'il bouge dans la vie, qu'il produit, c'est le bien. Le rachat, c'est le contraire. Il peut faire des mitzvot, des fois, il peut avoir un bon cœur, qui à un moment donné va faire quelque chose de bien. Mais de façon générale, ce qui l'allume, ce qui l'excite, c'est la faute, c'est la avéra, c'est la discothèque, c'est les bêtises, c'est le znout, c'est l'argent, c'est tout ce qui est... Il y a pas la kedusha, ça n'excite pas trop, mais il comprend que c'est bien, il fait des fois une petite tzedaka. Alors on te dit qu'il faut savoir que dès que tu es dans un chibour, un rachat, tu peux lui parler. Du moment que c'est ni ton voisin, ni qui est du chibour, tu peux lui parler, tu peux communiquer avec lui, tu peux même essayer de le ramener en tshuva, tu peux même avoir des discussions avec lui. Mais il ne faut pas, un, qu'il soit ton voisin, c'est ta référence. Deux, qui est de chibour. Chibour, ça, tu ne peux pas lier ta vie à sa vie. Pourquoi? Pour trois raisons. Un, parce que il faut savoir qu'une vie a son mazal, a ses brachot. Une vie a sa propre énergie, a sa propre économie, a son propre rythme. Si tu lis, toi qui es un tzaddik, on parle ici d'un tzaddik, si toi qui es un tzaddik, il y a aussi les bénonis c'est les gens du milieu, des fois ils sont comme ça, ils sont animés par les deux. Beaucoup de gens sont bénonis, ils sont en même temps tzaddik, en même temps rachat. Pourquoi? Parce que les deux les excitent. Aller en discothèque, ça l'excite. À l'étude de la Torah, ça l'excite. Il aime les deux. Bon, c'est-à-dire qu'il est composé d'une double personnalité où le bien et le mal le font bouger. Bon. Mais en tous les cas, quelqu'un qui est un tzaddik ou même un bénoni, on y ne te lit pas un rachat. Parce que si tu te lis un rachat, c'est-à-dire que tu lis ton existence, tes enjeux économiques, tes enjeux émotionnels, ta vie, à quelqu'un dont l'essence est la négativité, dont l'essence est l'anti-Torah, sache que ta vie elle-même, elle va être entraînée dans un mazal, dans une voie qui est anti ta voix à toi. Et donc ça va court-circuiter énormément de bénédictions, énormément d'ouvertures, ça va fermer des ouvertures. Ça va empêcher à la bracha de ton existence d'apparaître. Ça va couper la bracha, ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que dès que tu te lis, tu acceptes. Il y a un principe dans la vie qui s'appelle macha. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher, t'es pas le grand justifié de l'univers, ça c'est Dieu qui fait ça. Tu peux pas changer le monde entier, tu peux pas changer les gens non plus tellement. Tu peux essayer, mais tu dois admettre que tu n'es pas tout puissant. Tu fais ce que tu peux. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu vois quelque chose qui est pas bien, quand tu vois des gens qui se comportent mal, quand tu vois que des gens qui font pas ce qu'il faut faire, il faut avoir le courage de le dire. Je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas partie de votre histoire. Si on est au travail et qu'on voit des gens qui se moquent de quelqu'un, tout le monde se moque de quelqu'un, et ça fait bien de se moquer avec eux de quelqu'un, vous devez vous lever comme un idiot. Vous avez l'air un peu idiot, un peu lourdingue, un peu loudnique, comme on dit en hébreu. Vous vous levez, vous dites, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites là. C'est dégoûtant de se moquer de quelqu'un. Ah, quel casse-tête, celui-là. C'est vrai. Mais au moins, j'ai gardé ma dignité. Au moins, j'ai gardé ma kdoucha. Je me lis pas avec vous. Je ne me lis pas dans vos petites magouilles, dans vos petites intrigues, dans votre petite mesquinerie, dans votre méchanceté. Je ne me lis pas, je coupe. Être capable de couper. C'est pour ça qu'on dit, sheker, que le mensonge, c'est les mêmes lettres que kesher, le lien. Parce qu'on fait des liens sociaux qui sont du mensonge. Krav, qui veut dire le combat, c'est les mêmes lettres que karov. Je peux combattre le rachat. Pourquoi? Parce que quelque part, je le respecte. Parce que je suis pas d'accord avec toi, et je pense que tu es un rachat, et que c'est dégoûtant que tu es un rachat, et que un jour tu mettras un tzaddik. Et donc, je te le dis en face. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de couper. Ne pas être mitraber. C'est la deuxième raison. Parce que si tu es mitraber, il y a des gens, ils sont tzaddik. C'était un grand problème, d'ailleurs, du judaïsme sfarad, il y a 30-40 ans, où les parents étaient tzaddik, shomer mitzvot, ils voyaient leur fils, leur enfant, qui faisait des bêtises, qui ne faisait pas Shabbat, qui sortait avec des filles, et ils laissaient faire, c'est pas grave, c'est la modernité, aujourd'hui c'est comme ça. Ça a été une catastrophe pour le judaïsme. D'ailleurs, pas que Sfarad, c'était pareil aussi en France, dans le judaïsme ashkénaze du 19e siècle. Il y a un moment donné, une baisse, où il n'y a plus cette coupure avec le mal. On dit, on pactise avec le mal. Dès qu'on pactise avec le mal, même si nous-mêmes on fait pas le mal, dès qu'on admet que le mal est possible, pourquoi pas, ils sont pas méchants, ça va. Dès qu'on fait ça, on fait partie du mal. On sera puni comme si nous-mêmes avons fait le mal. Celui qui ne fait pas de macha'a est puni comme si lui-même avait fait le mal. Et donc il faut être capable de dire non. Capable de trancher, de casser le nœud, de ne jamais se lier avec quelqu'un dont l'essence de l'existence est l'anti-Torah et la négativité. Et la troisième raison, qui est pas moindre, qui est très très importante, c'est que, en me liant au rachat, en me liant au rachat, je deviens moi-même rachat. Je deviens moi-même rachat, pas simplement parce que j'ai pas dit non, et pas simplement parce qu'il m'influence, c'est parce qu'en vérité, tous les hommes sont un. Nous sommes tous les visages de l'humanité et du peuple d'Israël. Et donc, comme on est solidaire dans le positif d'Israël, on est Arevim Zelezé. Tout le peuple juif est responsable l'un pour l'autre. On est responsable. Et je ne peux sauver mon frère Racha que parce que je porte pour lui sa vérité. Je dis, toi tu es dans l'erreur, moi je fais la Torah au nom de tout un Israël. Dès que je me lie à lui, j'annule cette possibilité de me couper de quelqu'un pour l'aider. C'est parce que en me coupant de quelqu'un, je ne le fais pas en le rejetant. Je le fais parce que je dis, je suis capable de sauver ce qui était bon en toi, en te montrant ce que je dois faire. Et si je me lie à lui, j'annule cette capacité de miroir d'éveil de la conscience. Et c'est pour cela qu'on nous dit, et c'est pour ça qu'ici on est en rapport par rapport à « achète-toi un ami ». C'est qu'il y a cette notion de responsabilité par rapport à l'autre. Là, on parle d'un rachat face à un tzaddik qui ont peut-être le même niveau intellectuel, mais il y a cette responsabilité par rapport à l'autre. Et la troisième chose qui, bien entendu, vient parachever, il dit « ne désespère pas ». Comme on avait dit avant, « vois tout le monde, bekafsrout ». Vois tout le monde, essaie de juger tout le monde avec un œil clément. Là, il dit exactement le contraire. Tu vois que le monde ne tourne pas rond, tu vois que les gens font des péchés, et pourtant il n'y a pas de punition. Il ne désespère pas de la punition. Paras v'shalom qu'on veut la punition. Paras v'shalom qu'on veut la punition. Pas du tout, Dieu préserve. C'est qu'on dit, il faut que le monde ait un sens. Ça, c'est Yitzhak Avinu. De la même façon que Avram Avinu a découvert Dieu à partir de l'amour. Il a découvert que lui était tout amour. Donc il a dit, si le monde est amour, si je suis tout amour, cet amour vient de quelque part. Il a découvert que le monde a été créé parce qu'il a vu le cosmos entier comme un acte magnifique d'amour. Ben, Yitzhak a découvert le messianisme, a découvert l'eschatologie, il a découvert la fin des temps. Parce qu'il a dit, c'est pas possible que le monde n'ait pas une justice. C'est pas possible que le tzaddik, il travaille, il fait des efforts pour s'approcher de Dieu, pour faire sa Torah, faire ses mitzvot, et il est malheureux, alors que lui, il va en boîte de nuit, il fait des bêtises, et tu le vois avec sa grosse voiture, et pas simplement que tu vois qu'il a plein d'argent, tu vois qu'il est bien en sa peau, que sa femme est sympa, que ses enfants sont sympas, il a une belle vie, il va au ski, il fait de la voile, tout va bien. Et tu vois l'autre, la vraie, le pauvre, il a que des problèmes, il a pas d'argent, sa femme lui fait la tête, et son fils, il a mal tourné. Tu dis, c'est pas possible. Où est la vérité? Ne désespère pas. C'est pas le monde est en train de se faire justice. Ça, il y a un mouvement peut-être lent à nos yeux depuis la création du monde jusqu'à la fin du venu du Messie où chaque chose sera retournée à sa place. Ne désespère pas de voir dans le monde la vérité. Pour le moment, tu es un résistant. Tu vis la vérité dans ton exil, dans ton ghetto, dans ton intériorité. Tu acceptes de vivre la Torah même si ces fois c'est dur. Tu acceptes d'être fidèle à la vérité, même si des fois c'est en distorsion avec le monde. Tu acceptes de vivre les contraintes d'une fidélité à la grandeur. Et tu vois que le monde autour de toi, il obéit pas à ça. Il obéit à des principes, à première vue, anti-Torah. Et tu te dis, des fois, tu as envie de dire, je comprends rien, ça fait aucun sens tout ça. Tu dois dire, non, ça fait peut-être aucun sens à tes yeux. Mais un jour, ça fera sens. C'est la notion d'espoir. Ne désespère pas. Altitiaesh! Ne désespère pas, la justice et la vérité triomphera, c'est sûr, c'est une question de temps.